Benoît Basirico est cinésique sur Aligre FM pour presque une heure consacrée à la musique de film. Au sommaire de cette émission, quatre combats de femmes. Il s'agit d'abord d'une mère française à la recherche de son fils en Uruguay. C'est Isabelle Carré dans Une vie ailleurs de Olivier Payon. Son compositeur Nicolas Kuhn est notre premier invité. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Dans Paris la Blanche de Lydia Terki, c'est la quête d'une vieille dame algérienne qui est à Paris à la recherche de son mari qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. La DJ Chloé a signé la musique, on l'entendra dans une interview enregistrée. Félicité, c'est le nom d'une chanteuse à Kinshasa qui se bat pour trouver l'argent nécessaire pour sauver son fils hospitalisé. C'est aussi le titre du film de Alain Gomis qui évoquera dans une interview enregistrée son désir de filmer la musique. Enfin, Virginie Efira campe dans Prix de Court, une mère prête à tout pour sauver son fils pris dans un piège. La réalisatrice Emmanuelle Kyo et le compositeur Alexandre Lecluise sont avec nous. Emmanuel et Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Et pour commencer, nous nous intéressons à l'actualité des BO avec The Lost City of Z et United Kingdom. The Lost City of Z, c'est le nouveau film de James Gray. James Gray qui retrouve son compositeur Christopher Spellman après Two Lovers et The Immigrant, une partition magnétique illustrant les aventures de ces explorateurs du fleuve amazonien. Et ensuite United Kingdom avec la musique de Patrick Doyle. Après The Lost City of Z, avec la musique de Christopher Spellman pour le film de James Gray à l'affiche depuis le 15 mars dernier, à l'instant, United Kingdom, la musique de Patrick Doyle. Le film est sorti le 29 mars, cette semaine. Il s'agit d'une histoire d'amour interraciale par la réalisatrice anglaise Amma Asante. On pense évidemment au Loving de Jeff Nichols. Mais alors que David Wingo avait joué la retenue, Patrick Doyle propose cette partition romanesque avec lyrisme dans la lignée de celle de John Barry. Je pense par exemple à Out of Africa. Autre film sorti cette semaine, ou plus exactement il y a 15 jours, il s'agit d'Une vie ailleurs, le film donc d'Olivier Payon, musique de Nicolas Kuhn, avec Isabelle Carré et Ramzi Bedia. En Uruguay, Sylvie, Isabelle Carré, retrouve la trace de son fils enlevé il y a 4 ans par son ex-mari. Elle part le récupérer avec l'aide de Mehdi, Ramzi Bedia. On entend cette guitare dans la partition d'Une vie ailleurs, musique écrite par Nicolas Kuhn. Bonjour, bonjour.
Rebonjour.
Le titre s'appelle d'ailleurs « Retrouver mon fils en Uruguay ». Ça ne pouvait pas être plus parlant pour le sujet, le pitch du film. Et il s'agit, là on entend la guitare qui convoque peut-être la géographie du film.
Guitare et bandoneon, ouais, ici on entend bien ces deux instruments. Il y avait le côté intimiste de la guitare, au-delà du côté peut-être effectivement Amérique latine. Là, c'est pas vraiment des rythmes latino-américains, mais oui, il y a ce côté intimiste. Ici, en plus, c'est un peu particulier, c'est une scène avec dialogue, ce qui n'est pas forcément facile de marier la musique avec le dialogue. Et donc, je pense que ce côté un peu intimiste de la guitare favorise ça. J'ai l'impression que quand on rentre sur des grosses instrumentations, sur des dialogues, c'est un peu plus compliqué, ou alors il faut que ce soit très très loin. Voilà, ouais, là on a le côté voyage en Uruguay un petit peu, ouais, qui se ressent. Mais c'est peut-être plus le bandoneon que la guitare qui donne cet effet ici.
D'accord. Alors, souvent les compositeurs interviennent à la dernière minute. Là, je crois que vous êtes intervenu très tôt avec Olivier Payon.
Ouais, je pense que c'est vraiment le mode de fonctionnement idéal. En fait, j'avais le scénario et donc j'ai pu lui proposer des morceaux avant qu'ils se mettent au montage. Et du coup, je pense que c'est idéal pour le compositeur et le réalisateur parce que lui-même avait du coup ces paysages sonores qu'on a aussi un petit peu développés ensemble, voilà, en cherchant des sons qui nous emmènent un peu ailleurs justement. Alors là, ici, on avait la guitare, le bandoneon. J'ai aussi intégré du hang. Donc le hang, c'est un instrument de percussion métallique, un peu comme le steel drum. Et sauf qu'il a des sortes d'harmoniques, de résonances un peu étranges. Et donc ça, voilà, il y a une espèce de trio comme ça d'instruments avec des sonorités un peu originales, plus le quintet à cordes. Là, on a entendu un petit peu les instruments à cordes frottés qui me permettaient d'aller un peu dans toutes les directions. Voilà, effectivement, si je pouvais retrouver ce genre de situation où on est en amont du montage, c'est vraiment idéal. Souvent, en fait, on compose à partir de morceaux temporaires. que le monteur a déjà placé sur les séquences. Et c'est difficile de lutter quand le monteur et le réalisateur ont déjà travaillé pendant des semaines et des mois sur des musiques. Mmh. Donc l'idéal, à mon avis, c'est ça. Je fais un appel à tous les réalisateurs. Mmh. Utilisez le compositeur, faites entrer le compositeur vraiment en amont de la production du film.
Mmh. Donc il y a une fusion des sonorités et la musique est à la fois tendre, douce, peut-être maternelle finalement vis-à-vis de cette mère qui recherche son fils et en même temps pulsée, tendue, rythmée. Comment vous avez géré ces deux aspects ?
Alors il y a eu beaucoup de discussions, je pense que c'est vraiment central la discussion entre le compositeur et le réalisateur. C'est un peu la signature du film qui est un peu comme ça lui-même. Il est entre la larme quasiment et puis la réflexion ou l'introspection. Et donc il fallait trouver ce dosage. Après, au cours du film, il y a quand même une évolution. On part de ce type de morceau un petit peu léger et pour aller vers quelque chose de plus en plus tendu et de plus en plus fort émotionnellement, avec une présence des cordes, du coup, de plus en plus grande au fur et à mesure du film. Ou alors aussi d'instruments électroniques, des guitares électriques, des sons électroniques qui peuvent aussi rajouter des tensions. Voilà, donc en fait, il y a une évolution de la signature sonore au cours du film.
Alors, vous l'avez dit, l'Amérique du Sud est convoquée par le bandoneon et la guitare. Est-ce que, par exemple, il y a des morceaux qui rappellent un peu un tango. Est-ce que, par exemple, Astor Piazzolla est apparu dans la discussion avec Olivier Péillon ?
Oui, on s'est fait chacun écouter des morceaux. On s'est envoyé des morceaux l'un l'autre. Il y a eu du Astor Piazzolla, il y a eu pas mal de musique argentine. Initialement, il voulait tourner son film en Argentine, et puis finalement, ça s'est fait en Uruguay. Mais l'Uruguay est quand même très marqué par l'Argentine au niveau musical. Il n'y a pas de musique typiquement uruguayenne, c'est uniquement des musiques de percussion et de musique de carnaval, un petit peu de rue. Donc, Piazzolla, oui, le tango est présent, effectivement.
Ailleurs, musique donc de Nicolas Kuhn, vous avez signé cette partition, comme on le disait, avec des accents d'Amérique du Sud, mais en même temps, elle ne joue jamais le folklore. Ce que j'aime beaucoup dans cette partition, c'est que tout en convoquant l'Amérique du Sud, elle est complètement dans le personnage, dans son action, elle est dans la trajectoire du personnage, donc c'est à la fois une véritable musique de film, soulignant la dramaturgie, l'arc narratif, dans cette dynamique, tout en convoquant les sonorités d'Amérique du Sud. Comment vous avez justement travaillé par rapport à la trajectoire du personnage ? C'est au niveau du scénario ?
Alors, il y a plusieurs personnages qui évoluent, en fait, au fur et à mesure du film. Mais il y a aussi des musiques qui servent aussi la trame narrative et l'action. Donc, il y a un petit peu les deux. Par exemple, cette musique-là est plutôt une sorte de musique un peu motorique qui sert dans des scènes où on est un peu dans l'angoisse ou dans la poursuite. Donc ça dépend. Mais c'est vrai que j'ai cherché quand même à essayer de créer une cohérence pour que il y a un côté organique qui apparaît dans le fait que on passe pas d'un morceau à un autre en faisant des grands écarts incompréhensibles. Voilà, on essaye de poursuivre un chemin, et je pense que c'est, ouais, c'est ce qui se passe dans le film.
Je crois que c'est la première fiction d'Olivier Péillon.
Non, il a déjà fait un film avec Bernadette Lafont qui s'appelait Les Petites Vacances, il y a un moment. Et là, il fait plutôt des documentaires, mais il est très tourné vers la fiction aussi.
Parce que ce que je trouve intéressant aussi dans ce film, c'est que donc, le sujet est assez émouvant, cette mère à la recherche de son fils, et en même temps, il ne cherche pas à faire spectaculaire. À un moment donné, il y a le fils justement qu'elle recherche qui fuit. Et le plan d'après, au lieu de le retrouver en train de courir à l'autre bout, enfin de faire le spectacle, on le retrouve tout simplement assis contre un mur. Il y a ce côté du non spectaculaire. Est-ce que dans la musique, vous avez justement aussi évité d'en faire trop ?
Oui, je pense que j'ai essayé ça. J'ai essayé de mettre des touches en fait dramatiques sur un paysage plutôt serein, bon avec quelques montées. Il y a notamment une scène vraiment déchirante à un moment donné où là, je pense que c'était bien de jouer vraiment le côté déchirant, tragique quasiment. Mais sinon, c'est plutôt oui, tout est et ça permet aussi la réflexion de peut-être pas de partir dans des choses trop outrées. Donc oui, j'ai cherché ça un petit peu tout le long.
Et puis éviter le pathos, j'imagine que c'est aussi une question que vous êtes posée par rapport à l'émotion du personnage.
Oui, alors après. Ça, c'est aussi une chance de travailler avec des comédiens comme Isabelle Carré ou Ramzy qui arrivent à exprimer des choses très très puissantes, mais sans en faire trop. Et du coup, la musique a besoin de suivre ça simplement, sans non plus avoir besoin d'en faire trop non plus.
Ce magnifique morceau, vous l'avez, Nicolas Kuhn, appelé « Douleur ». Et justement, ce titre apparaît dans le film dans un moment très douloureux. Vous pouvez peut-être l'évoquer ?
Oui, c'est une scène, c'est peut-être un peu le climax du film au niveau émotionnel. En fait, Isabelle Carré vient de retrouver son fils et elle va le voir partir sous son nez et en fait la refuser elle-même en tant que mère, donc c'est très dur pour elle. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette musique est réutilisé un petit peu plus loin dans le film, sur un moment beaucoup plus doux. Et alors ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant avec la musique de film, c'est que la même musique peut avoir des connotations totalement différentes en fonction des moments du film. Et ça, c'est intéressant aussi de réutiliser parfois un thème en le modifiant. Ça crée aussi des effets de mémorisation. Il y a plein d'effets comme ça qui sont vraiment intéressants dans la réalisation.
Alors, votre musique d'une vie ailleurs, on en a entendu plusieurs extraits, est disponible chez Crystal Records. Crystal Records, Eric Debeg à la tête de ce label, était d'ailleurs à notre micro pour une interview le mois dernier. Il a pu évoquer son travail d'éditeur et d'agent même. C'est votre agent d'ailleurs, Eric Debeg ?
Non, pas encore, mais peut-être dans des jours futurs.
Quel est votre parcours d'ailleurs, ce qu'on vous connaît donc sur Une vie ailleurs, et puis aussi sur Comment j'ai détesté les maths, un précédent film documentaire d'Olivier Payon, là vous le retrouvez donc pour la deuxième fois. Mais quel est votre parcours en dehors peut-être du cinéma ?
Dans la musique, j'ai un parcours assez autodidacte. J'ai surtout fait de la chanson en fait à la base, et puis je me suis formé petit à petit à l'écriture dans différents organismes. Mais ça fait une dizaine d'années que je travaille à l'image maintenant. Et je pense qu'on se forme beaucoup en faisant en fait dans ce métier. C'est quand même assez différent de la composition dans les cercles classiques ou en jazz. Où il y a un côté beaucoup plus polyvalent qui oblige d'ailleurs, je pense, à avoir une vision beaucoup plus transversale de la musique que dans d'autres styles. J'ai l'impression.
Et vous aimez le cinéma pour ses contraintes, ça vous justement ça parce que souvent les compositeurs trouvent les contraintes du cinéma, que ce soit le timing, les références, etc., un peu contraignantes.
Non, je trouve ça assez inspirant en fait, plutôt. Et puis ça permet aussi de partir dans des directions très différentes sur chaque film. En fait, c'est vraiment des sons. Ça peut être une signature sonore différente. Et je trouve qu'il y a vraiment des recherches intéressantes aujourd'hui à la frange entre quasiment musique contemporaine et musique plus classique, romantique. Je pense à des compositeurs comme Johnny Greenwood, par exemple, sur les films de Paul Thomas Anderson, ou plus récemment Mika Levy. Il y a des choses, je pense, que peut-être qui sont à chercher dans le cinéma français. On va pas très loin dans ce domaine, peut-être parce que les réalisateurs n'ont souvent pas une grande culture musicale. Ou qu'ils sont pas très curieux, je sais pas, mais il y a vraiment des choses à chercher dans les sons du cinéma. Alors il y a des choses, il y a de la musique électronique, et puis surtout les compositeurs français sont d'excellents coloristes, donc il y a des très très belles BO dans les films français, mais il y aura peut-être des choses à chercher dans un côté un petit peu plus expérimental qui marche tellement bien à l'image. On le sait depuis les films de Stanley Kubrick, ça fonctionne très très bien.
Alors j'ai vu qu'Olivier Payon sur Comment j'ai détesté les maths était également crédité à la musique. Est-ce qu'il est aussi compositeur ?
Je lui ai montré quelques accords de guitare, donc sur Comment j'ai détesté les maths, on a cherché des choses un petit peu ensemble à la guitare. Il y a beaucoup de guitare dans Comment j'ai détesté les maths.
C'est lui qui a créé un peu le thème alors avec vous ?
Oui, il y a certains thèmes qui ont été créés en collaboration.
Et sur Une vie ailleurs, alors il était aussi impliqué, est-ce qu'il vous donnait des idées d'harmonie, de notes, de thèmes ?
Alors là, non, pas du tout, parce que je pense qu'il était très très pris par la production, ça a été très très prenant, donc non, on a réfléchi ensemble à ce qu'il voulait, mais là c'est... Il n'est pas intervenu.
Alors, Comment j'ai détesté les maths, la partition est complètement différente d'Une vie ailleurs. Quelle était l'intention pour un documentaire ? Justement, c'est très rare d'avoir une musique dans un documentaire.
Ça permet de donner une dynamique, d'humaniser beaucoup les choses. Comme on n'a pas des comédiens professionnels, mais des gens qui témoignent un peu. Ça permet de cinématographier un peu plus, je dirais, ou d'esthétiser le réel. Et de créer du rythme, je pense.
Eh bien, écoutons votre musique pour Comment j'ai détesté les maths, précédent film d'Olivier Payon. Nous avons entendu votre guitare dans Comment j'ai détesté les maths. C'était une vraie guitare. Et à l'instant, vous avez voulu diffuser cet extrait puisque c'est un court-métrage, l'incroyable histoire de la femme araignée. Il s'agit donc du générique du film. Et là, vous avez voulu nous faire entendre des sonorités issues de banques de sons. Quand il n'y a pas de budget sur un court-métrage, on fait appel à des banques de sons.
Voilà, exactement. À peu près la plupart des courts-métrages sont un peu dans cette situation. Alors, il y a quand même des aides du CNC ou de la SACEM qui sont bienvenues pour pouvoir enregistrer des musiciens, mais bon, souvent c'est sans musiciens. Donc là, c'est un double film de genre. C'est à la fois un film noir un peu typé années 50 et un film fantastique avec une femme araignée qui va finir par se venger de manière atroce à la fin. Et donc, voilà, donc des cordes, beaucoup de cordes, des sons aussi, d'instruments en verre. Et en fait, oui, les banques de sons sont assez incroyables aujourd'hui, donc on peut vraiment obtenir des sons réalistes et même créer de l'émotion avec ces faux musiciens. C'est quand même des musiciens enregistrés à la base, donc il y a quand même quelque chose dedans. Voilà, il faut savoir aussi que les maquettes, en fait, très souvent, à part les instruments que le compositeur peut jouer, mais les maquettes qui sont utilisées pour dans toute la vie de la production du film jusqu'à la fin quasiment, c'est des sons virtuels. Voilà.
Et je vous invite tous à donc aller voir Une vie ailleurs en salle, écouter votre musique pour ce film avec Isabelle Carré d'Olivier Payon. Autre film sorti mercredi dernier, celui-ci, Paris la Blanche, un film de Lydia Terki, et c'est Chloé Thévenin, connue à travers son prénom Chloé en tant que DJ de musique électronique. C'est l'histoire donc d'une femme qui part de son village en Algérie pour retrouver son mari à Paris, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, et la musique convoque cette mixité culturelle avec un mélange entre la musique électronique, d'où vient Chloé, et des instruments traditionnels algériens. Chloé nous parle de sa collaboration avec les musiciens algériens.
Ce qui est fort dans la musique algérienne, déjà, c'est qu'elle se transmet à l'oral, il n'y a pas de partition. Cette collaboration s'est faite, moi je leur ai joué ce morceau que j'avais rejoué après moi avec d'autres instruments. J'avais déjà un peu organisé une orchestration un peu bancale, mais pour préparer la séance avec les musiciens. Et ces musiciens-là sont venus travailler sur la mélodie, ont joué. Mais à un moment donné, en discutant, il en est sorti d'autres choses, des nouvelles choses un peu inattendues. Ils ont pu aussi, eux, exprimer vraiment quelque chose de très spontané, très intuitif. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup et c'est ce que je retrouve un peu aussi dans la musique électronique. Il y a beaucoup d'improvisation puisque, en fait, on part d'un thème et puis après, on enregistre des choses, on essaie des choses. Et il faut de l'improvisation parce que c'est ce qui apporte de la créativité. Ce qui me plaît, c'est de jouer sur les harmonies. En fait, d'essayer de trouver des choses qui s'allient et qui vont bien ensemble, et parfois qui sont un tout petit peu dissonants, parfois qui redeviennent harmonieux. Enfin, moi, c'est ce jeu-là que j'aime. Mixer, c'est quoi ? C'est passer des morceaux qui ont des textures différentes, des sonorités un peu différentes, mais qui sont quand même assez cohérents. C'est essayer de construire quelque chose. C'est amener vers quelque chose. Donc, un enchaînement d'un morceau vers un autre. Donc, ce que j'ai acquis avec le DJing, je l'exploite dans mes productions musicales aussi.
Thank you. Nous avons donc entendu Chloé, la musicienne qui a écrit la partition de Paris la Blanche, et nous entendons là la mandoline et le oud intégrés à une partition presque techno, ce qui est assez inédit pour ce film. Maintenant passons à Félicité, autre film sorti mercredi dernier, 29 mars. Pour son portrait de Félicité, chanteuse désabusée à Kinshasa, le cinéaste franco-sénégalais Alain Gomis s'inspire de Myam Bui, une chanteuse au sein du collectif Kasaï All Stars, regroupant environ 25 musiciens congolais. Alain Gomis aime filmer la musique. Hormis les chansons de Kasaï All Stars et la voix de Myam Bui, qui est celle du personnage, on y voit également l'orchestre de Kinshasa qui reprend Arvo Pärt. Le réalisateur nous en parle.
La musique d'Arvo Pärt a été réorchestrée par l'orchestre symphonique bangliste. Donc c'est la musique d'Arvo Pärt, mais qui se sont réappropriées vraiment presque. Par exemple, My Heart in the Islands, c'est pour une soprano et un orgue. Et là, c'est joué par 80 musiciens, donc ils ont c'est plus que réorchestré là. Donc ils y ont remis des harmonies, etc. Il y a des variations, il y a des mouvements qui n'existent pas dans le morceau d'Arvo Pärt. J'aimerais bien d'ailleurs lui faire entendre. C'est drôle, quoi. Cet orchestre, alors il a une fonction presque de chœur au sens chœur antique, etc. Il introduit le film, etc. Mais il est une clé essentielle du film. C'est-à-dire que et qui est pour moi particulièrement sur ce morceau-là, My Heart in the Island, où on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je veux dire, nous, en train de filmer, la soprano, je ne la connais pas très bien, je ne sais pas si elle va. Et puis c'est un orchestre amateur aussi. Et la musique d'Arvo Pärt, elle paraît évidente comme ça, mais elle est. On déraille facilement, quoi. Donc il y a cette espèce de truc un peu casse-gueule, quoi. Et c'est exactement le film. C'est-à-dire que c'est absolument pas du tout parfait, de même que la caméra là, qui est là, qui bouge un peu. Et en même temps, il y a une telle force de conviction et d'interprétation que vous êtes emporté par la fragilité même de ce qui vous est proposé. Parce que c'est fait de façon très. C'est donné de façon très ouverte et très. Plus qu'honnête. Il y a un truc entier, absolument. C'est un grand plaisir que d'essayer de filmer la musique, de toute façon. Qu'est-ce que ça veut dire que de filmer la musique, a priori pas grand-chose, mais juste un peu comme de se mettre, et du coup ça veut pas dire la suivre, ça veut dire faire contrepoint à la musique elle-même en quelque sorte. Parce que se mettre, en gros, monter sur les temps, ça a aucun intérêt, ça produit pas grand-chose. Mais comment essayer justement de mettre en relief un mouvement en se plaçant autrement, ce que font souvent les musiciens, soit en faisant un contrepoint, soit en utilisant une seconde voix, etc., etc. C'est comment on creuse et tout à coup on donne à faire entendre de façon un peu plus aiguë ou un peu plus surprenante, quelque chose qui existe déjà. Mais c'est ça, voilà. Donc filmer la musique et du coup filmer un orchestre en train de jouer, ça c'était un grand plaisir.
Et quelques notes d'Arvo Pärt à l'instant dans une version exclusivement vocale pour féliciter donc d'Alain Gomis. Alain Gomis que l'on vient d'entendre ainsi que Chloé tout à l'heure, des interviews à retrouver intégralement sur cinésique.fr. Également sorti mercredi dernier, Prix de cours avec Virginie Efira, Gilbert Melki, Marine Canto, réalisatrice donc Emmanuel Cuyot et son compositeur Alexandre De Cluise sont avec nous. Rebonjour.
Rebonjour.
Nathalie, donc Virginie Efira, est joaillière et vient de s'installer à Paris pour un nouveau travail avec ses deux fils, mais la direction de la bijouterie change soudainement d'avis et lui annonce que le poste ne sera pas pour elle. Elle ne dit rien à ses enfants. De ce mensonge va naître un engrenage. Thank you. À l'instant, on vient d'entendre le thème de Prix de Cour, film donc de Emmanuel Kyo, musique d'Alexandre Lecuiz. Emmanuel Kyo, je parlais d'engrenage. C'est un peu peut-être un fil rouge de votre œuvre, j'ai l'impression. Dans Très bien, merci, il s'agissait déjà d'un engrenage. Gilbert Melki, déjà, est pris dans un engrenage un peu kafkaïen. Ça vous intéresse, ces arcanes narratifs dans la psyché d'un personnage?
Oui, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand, sur des toutes petites choses qui sont des. Qui peuvent apparaître comme des petits détails. Des choses extrêmement importantes en sorte avec des conséquences qui peuvent être très graves. Donc j'aime bien travailler là-dessus, mais maintenant j'ai pas fait une œuvre. J'essaie de continuer à faire des films, mais oui, l'engrenage c'est quelque chose qui m'intéresse, quoi. Quelque chose qui on peut plus faire demi-tour, on est embarqué sur une sorte de tapis roulant et voilà, embarqué.
Et quand on voit vos films, on voit votre plaisir d'écriture, parce que constamment, il y a la surprise, il y a justement des ressorts narratifs comme ça, dignes avec un jeu sur le suspense aussi, et on s'enfonce au fur et à mesure du film, il y a une progression justement dans presque quelque chose qui dépasse les personnages, une irréalité dans Très bien merci aussi, et ce squelette finalement narratif dans Très bien merci, ce passé de musique. Comment cette fois-ci, la nécessité d'une musique est apparue?
Mais en fait, la musique, j'en écoute très peu, c'est honteux de dire ça, mais parce que ça me rend très mélancolique. Donc, j'en écoute vraiment pas beaucoup. Enfin, c'est moins qu'on puisse dire. Et pourtant, j'adore la musique. Et quand je suis arrivée pendant l'écriture, pendant le tournage, il n'était pas question qu'il y ait de musique sur le film. Enfin, il n'y avait pas de musique, c'était pas. Et en arrivant au montage, image, j'annonce à Anya Lutke, la monteuse, elle me dit la musique, et je la regarde avec des yeux ébobis, et je dis ah non, mais il n'y a pas de musique. Elle me dit il n'y a pas de musique. Elle me dit mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas de musique dans ton film. Je dis non, il n'y aura pas de musique, etc. Et la première semaine, elle me disait tu vas le regretter. On va trouver un compositeur au dernier moment, ça va se faire à toute allure. Enfin, tu sais. Puis elle commençait un peu à m'angoisser, quoi. Je me disais, bon. Puis je voyais que plusieurs. Bon. Et puis ensuite, on a commencé vraiment à travailler dans le montage. Et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte en effet que la musique était quand même importante dans le film. Et que, bon. Mais comme pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau, j'appréhendais beaucoup, beaucoup. Je voulais pas d'une musique qui couvre tout le film, je voulais pas de... Voilà. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés avec Alexandre.
Parce qu'on dit souvent qu'une bonne musique de film est une musique qui n'est pas là pour parer à des manquements.
Oui,
le film fonctionne tout seul, mais la musique ajoute une voix parallèle.
Oui, oui. Bah, c'est ce que je souhaitais, quoi. Et j'avais peur d'appuyer des situations. Enfin, ça me faisait très peur. Donc après, il y a une chose qui était aussi importante pour moi, c'était que le même thème un peu revienne, en tout cas à deux moments, quand Paul, le fils de Virginie, commence à déraper, et quand Virginie, pour récupérer ses erreurs, dérape à son tour. Donc ça, on avait parlé à Alexandre que c'était important que ce soit le même thème, ensuite composé différemment, ça Alexandre en parlera bien mieux que moi.
Alors je crois que c'est par le mixeur que vous avez rencontré Alexandre.
Absolument, c'est Jean-Pierre Laforce, en fait, le mixeur du film, qui connaît bien Bruno Coulet. Et Bruno Coulet travaille avec plusieurs jeunes compositeurs.
Il n'était pas question que Bruno lui-même fasse la musique ?
Non, il était déjà très pris. Mm-hmm. Enfin, non, il était convenu en fait que les jeunes compositeurs avec qui travaille Bruno, en fait, ils sont venus un jour à la salle de montage avec Bruno et les élèves de Bruno. Et j'étais un peu angoissée parce que c'était l'une des premières fois aussi que je montrais le film, même s'il n'était pas complètement terminé. Et puis l'idée, ce qui était un peu embêtant, enfin qui m'était pas, c'était que les jeunes compositeurs, si ça les inspirait, proposent un peu un thème. Donc moi, j'avais deux références qui n'étaient pas très, j'en avais deux, donc j'étais quand même contente. C'était La Moldo de Smetana. Voilà, qui est une musique qui me bouleverse beaucoup et j'aime bien ce fleuve comme ça qui coule et qui... Et la Symphonie des Jouets de Léopold de Mozart. Et j'aimais bien le côté très enlevé, très... de marionnette un peu qu'on... Voilà, et donc il y a eu des propositions, toutes très bonnes, mais j'ai trouvé que celle d'Alexandre était, m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc après, on a commencé à travailler avec Alexandre.
Très bien. Donc, Alexandre Lecuisse, vous avez donc gagné ce concours, ce casting, on peut dire, de compositeur. Et alors, comment vous avez donc perçu à la fois ces références et à la fois les images que vous avez vues pour inspirer votre musique ?
Je pense qu'on a en fait disséqué les références de d'Emmanuel en discernant vraiment les aspects qui lui plaisaient, des aspects qui seraient incohérents avec le film. Et c'était un peu surprenant, mais en y réfléchissant, les deux musiques, les deux références étaient pertinentes sur plusieurs côtés. Et je pense que c'est cette perception d'avancement, enfin de quand tu parles de la Moldo, que ça coule, c'est une musique qui évolue, enfin qui fait avancer en fait la narration. Et il y avait aussi bah, tout simplement les cordes, enfin que t'aimais la sonorité,
oui, beaucoup,
des,
oui,
des cordes qui sont à la fois nobles et pas, et justement c'est des cordes pas pathos, parce que le cliché c'est on sort les violons et on fait des violons qui font pleurer, et là c'est au contraire des cordes bah nobles. Et je pense dans la symphonie des jouets, ce que t'aimais, c'était une mélodie vraiment qui était assumée et qui, oui, contribuait à cet effet.
Et qui était très enlevée, ouais, aussi. Enfin, très.
Exactement.
Je sais pas comment on dit, mais très.
Ouais, qui a cet aspect baroque classique que. Qui est quand même très recherché dans le cinéma actuel. Enfin, il y a quand même beaucoup de musique synchronisée, de musique baroque ou de musique classique dans le cinéma actuel. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est une musique qui a ce caractère, qui a beaucoup de caractère et qui est recherché. Et donc, pour moi, c'était les deux aspects importants des musiques.
Et on a évoqué souvent l'aspect du thème. Il y a un thème qui revient plusieurs fois et il y a une espèce, je dirais, de frénésie dans le thème. Donc il y a un peu une volonté d'instaurer un rythme qui reviendrait à chaque fois que le thème réapparaît.
Absolument, il y a ce côté obsessionnel qui est, comme tu disais, qui est en rapport avec l'histoire, qui est en rapport avec le dérapage et de s'engouffrer complètement dans le cornage. Et comme tu dis, de frénésie voilà, qui est pertinent avec l'histoire.
Eh bien, on retrouve le thème dans ce morceau. Magnifique thème pour Prix de cours, thème écrit par Alexandre Lecuisse. On sent dans ce thème une frénésie, on le disait, mais aussi une détermination qui est peut-être celle donc du personnage de Nathalie. Est-ce qu'il s'agit finalement de la musique du personnage ?
Moi, je le perçois un peu comme ça. Et d'ailleurs, j'ai nommé. On m'avait demandé de nommer les cues, enfin les extraits. Et bah les deux scènes dont tu parlais, qui sont des scènes miroirs où chacun dérape et chacun entre dans le grenage avec détermination, le premier je l'ai appelé Paul et le second Nathalie. Ah, ouais. Enfin, pour moi c'était un peu évident.
Ouais, ouais.
Je sais pas si tu l'as perçu comme ça, mais ouais, effectivement,
ouais, ouais.
C'est le. Disons que c'est le thème de la détermination. En faisant un peu cliché, que les personnages se sont attribués tour à tour. Et d'où l'importance de ces deux scènes miroirs dans le film.
C'est un premier travail d'envergure pour vous, je crois, Alexandre Lecluise.
Absolument.
On l'a dit tout à l'heure, vous faites partie du Conservatoire de Paris avec Bruno Coulet en professeur.
Qu'on embrasse.
Voilà, on salue Bruno Coulet. Vous avez donc signé des courts-métrages, vous avez fait Émergence cette année, d'ailleurs je crois que vous allez le faire, Émergence.
Absolument, là c'est en cours.
Voilà, donc Émergence où Bruno Coulet est dans le jury. Donc on peut dire
qu'il n'y a pas de piston.
Donc on peut dire que Bruno Coulet un peu vous parraine pour prendre une relève quelque part. Comment vous sentez cette responsabilité d'être la relève de la musique de film? Est-ce que justement, qu'est-ce que dans Bruno Coulet, dans son travail et son parcours, vous inspire?
Oui, effectivement, Bruno est vraiment mon gourou, on peut le dire. Je pense que c'est, je suis entré dans sa classe par le biais de la musique en me disant tiens, qu'est-ce que je vais en prendre en musique, et en fait j'ai beaucoup beaucoup appris sur le cinéma. C'est un cinéaste incroyable, et j'en suis à un point où on sait plus s'il est musicien ou cinéaste ou les deux en fait, et c'est surtout c'est vraiment là-dessus qu'il m'a métamorphosé, si je peux me permettre.
Vous l'avez aussi d'ailleurs vu, il était parrain de Trio, la résidence de la maison du film court. Donc Bruno Coulet ne vous quitte pas, mais vous allez très vite vous émanciper, ça j'en suis sûr, à travers d'autres projets. Emmanuel Cuyo, par rapport à ce film pour lequel vous collaborez pour la première fois avec un compositeur, comment vous retenez cette collaboration? Est-ce que vous avez aussi appris, vous, en tant que cinéaste, une manière d'intégrer une musique dans votre film?
Ah oui, beaucoup. Et puis surtout, ça m'a donné envie de continuer à travailler avec la musique pour les films. Et là, j'ai un projet que je commence à écrire, où d'ailleurs Sandrine Bonner joue, et elle est chanteuse avec un groupe. Donc c'est quand même le... Voilà, et donc là, on commence à écrire, on se voit, elle prend des cours de chant, elle apprend la guitare.
Compositeur est déjà impliqué là ou...
Non, pas encore. Là, je suis en train de rencontrer un peu des groupes. Mais elle a fait, la Sandrine, un documentaire sur Jacques Higelin. Elle avait chanté avec lui. Elle vient de terminer un documentaire sur Marianne Faithfull. Et puis, elle compose pour elle. Voilà, elle aime bien la musique. Et quand on a décidé de travailler ensemble, je lui ai demandé, mais le personnage masculin est beaucoup plus clair dans mon esprit que le personnage de Sandrine Bonner. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'aimerais faire? Qu'est-ce que t'aimerais? Elle me dit, il y a une chose dont j'ai toujours rêvé depuis que je suis gamine, c'est un jour tu seras une chanteuse. Je dis, ok, on fait une chanteuse. Donc elle est chanteuse. Voilà, donc c'est marrant. Enfin voilà, ça me plaît bien.
Très bien. Et Pris de Court, donc votre nouveau film, musique d'Alexandre Lecluise, est en salle depuis mercredi dernier. pris de court avec une nouvelle sonorité à l'instant dans la partition plus mystérieuse de votre partition, Alexandre Lecluise. Merci Alexandre, merci Emmanuel Cuillot pour ce film qui vient de sortir. Et Une vie ailleurs, toujours à l'affiche donc de Nicolas Kuhn. Merci Nicolas Kuhn.
Merci.
On se projette maintenant dans l'avenir avec une avant-première qui est un grand prix à Aubagne. Le festival d'Aubagne, festival international du film d'Aubagne, a récompensé une partition, celle de Émile Parisien, un saxophoniste qui a signé la musique de Souffler plus fort que la mer de Marine Place. Il a notamment joué les morceaux du personnage, puisque le personnage de Julie dans le film est saxophoniste, mais son saxophone qui correspond au personnage est également la musique du film, de ses atmosphères, avec l'accordéon de Vincent Perani et le piano préparé de Julien Touéry. Souffler plus fort que la mer, Grand Prix d'Aubagne, avec la musique d'Émile Parisien. Le film sort le 10 mai. Instant, le saxophone d'Émile Parisien pour Souffler plus fort que la mer, le film de Marine Place qui sort le 10 mai prochain, et c'est le grand prix de la meilleure musique à Aubagne, au festival d'Aubagne. Et on termine, comme chaque mois, avec Manuel Bleton et sa chronique de vinyle, rareté vinyle défrichée en brocante, qui nous permet de découvrir des musiques inédites que l'on ne peut pas entendre autrement.
Qui n'ont jamais été numérisées. Alors aujourd'hui, on part dans les années 80, exactement 76 et en 77, avec le premier film que j'ai trouvé, qui est Jonas, qui aura 25 ans l'an 2000, d'Alain Tanner. Donc sorti en 76, musique de Jean-Marie Seigna. Donc ce film raconte le destin de quatre couples après mai 68 et cite à deux reprises Jean-Jacques Rousseau, Jonas étant un peu l'Émile d'Alain Tanner. Donc Jonas est une sorte de sauvage fait pour habiter les villes. L'idée sous-jacente étant que l'homme naturellement bon serait corrompu par la société. Alors le second extrait est aussi une sorte de critique, une satire de la société. Il s'agit de La vie parisienne, sortie en 77 et réalisée par Christian Jacques, qu'on connaît surtout pour Fanfan la Tulipe ou Les Perles de la Couronne. Donc c'est une comédie musicale satirique dont l'adaptation musicale est signée de Pierre Porte. Alors j'ai pas trouvé énormément de choses sur ce compositeur. Enfin, il a fait toutes les adaptations d'Offenbach et il a composé également les musiques additionnelles. Donc on écoute Promenade sous la pluie, musique de Pierre Porte, musique additionnelle pour ce film La vie parisienne. Précédé de la chanson de Jonas de Jean-Marie Seigna. Pourquoi?